carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Carrefour des Arts vous emmène dans les jardins de Versailles au cours de 3 émissions réalisées sur place en compagnie de Patricia Bouchenaud-Deschamps, historienne et écrivain. Après avoir évoqué les fondamentaux des jardins à la française et de leurs usages à Versailles, nous vous proposons de vous intéresser à l'ascension sociale des jardiniers à l'époque de Louis XIV. Vous connaissez sans doute André Lenôtre. Patricia Bouchenaud-Deschamps vous propose de faire la connaissance des Dupuis, des Trumel, des Maçons, des Collineaux, pour ne citer que quelques familles. Les jardiniers sont de véritables dynasties. Découvrons sans plus tarder l'histoire de ces véritables hommes d'entreprise en arpentant les jardins du roi.
On a une sorte d'amphithéâtre qui se dégage au pied du château avec ses parterres fleuris qui sont, c'est assez intéressant parce que en fait, quand on regarde l'iconographie de l'époque, on regarde les comptes des bâtiments du roi et les relevés des plantes que l'on pouvait avoir dans les jardins, on se rend compte que bon, aujourd'hui, on est beaucoup plus fleuri qu'on était à l'époque. Il ne faut pas oublier que les fleurs coûtaient cher et donc du coup, on était sur des structures de massifs qui étaient extrêmement équilibrées et assez intelligentes. C'est-à-dire que l'on avait, c'était des massifs créés, on devrait en prendre de la graine pour nous, pour même pour nos jardins. C'était des massifs qui étaient créés presque pour toutes les saisons, puisque vous aviez à la fois des persistants au milieu, sous forme de buis ou d'ifs taillés, vous aviez des vivaces et vous aviez des bulbes. Donc du coup, et le tout bordé de buis, donc ce qui permettait pour les parties fleuries, qui étaient proche du château, d'avoir cette succession des saisons possibles. Pour le reste, en raison du coût bien évidemment, on était beaucoup plus en alternance de bandes de gazon et en allées avec des petits cailloux et des recouvrements de différentes couleurs.
Et les pépinières se trouvaient où ?
Alors les pépinières, alors, il y en avait plusieurs sortes. Il y a d'abord les pépinières personnelles des jardiniers, puisque dans un premier temps, elles ont joué un rôle très important pour la fourniture des végétaux à Versailles. Puis les pépinières ont pris le relais. Alors, pour nous, ce qui correspond à l'actuel Chênaie, mais également maintenant du côté de Neuilly, c'était les pépinières du Roule. Donc il y en avait un peu partout. Il y en avait, on faisait venir les végétaux également de la Loire. Et puis on importait également avec le fameux jardin d'acclimatation de Rochefort. Donc il y avait plusieurs sources d'approvisionnement en matière de végétaux.
Alors, on va marcher, on va poursuivre notre petite promenade. Tout doucement venir aux personnalités, aux jardiniers, aux maîtres jardiniers, puisqu'on
Exactement.
Parle de maîtres jardiniers. Est-ce que maître jardinier, ça correspond à nos paysagistes d'aujourd'hui ?
On a sous le vocable jardinier toute une gamme de savoir-faire qui va du garçon des jardins jusqu'à l'architecte paysagiste. Versailles est un bon exemple pour comprendre l'évolution du métier de jardinier. On a, si vous voulez, au temps de la création de Versailles, donc on est en 1662, jusqu'en 1663, fin 63, début 64, les jardiniers qui sont là occupent toutes les fonctions à la fois. Ils ne sont pas affectés à des parties particulières, ils savent tout faire. Ils savent aussi bien s'occuper du potager que des parterres, que du couvert. C'est véritablement, on est sur tous les domaines à la fois et toutes les fonctions sont mélangées et ça correspond à l'ancien jardinier. Au fur et à mesure de l'extension du domaine, les jardiniers vont très vite se retrouver spécialisés par tâche. Et donc, on va avoir une stricte répartition qui va se retrouver jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'on va avoir des jardiniers exclusivement chargés du potager. Alors, on va commencer par des jardiniers moins connus, Vautier, avant d'arriver à Alain Quintini. Et puis pour Versailles même, pour ce qui est du pourtour du château, on va avoir un jardinier chargé de l'orangerie, qui est gouverneur de l'orangerie, un jardinier qui va être chargé des bosquets, on va avoir un jardinier chargé du pourtour du canal, et d'autres jardiniers qui vont être jardiniers de Trianon. On arrive finalement un peu à cette répartition que l'on a encore aujourd'hui avec un jardinier chargé du potager. Puis pour Versailles, on a deux jardiniers en chef. Un jardinier qui est chargé de l'ensemble de l'orangerie et des bosquets, qui est Joël Cotin. Et puis un autre qui est chargé de ce que de Trianon et du pourtour du canal, qui est Alain Baraton. Vous voyez, on est dans une continuité historique de cette répartition des jardins et qui correspond à l'époque de Louis XIV à une répartition des savoir-faire. C'est-à-dire que, et on le voit bien dans les traités et dans la correspondance de l'époque, si on prend, on est fin 17e, on voit la correspondance entre les étrangers qui demandent à avoir un jardinier français à leur service, eh bien on tombera sur des lettres expliquant mais de quelle sorte de jardinier voulez-vous avoir, car celui qui s'entend au potager s'entend rarement aux taupières et aux autres jardins, aux autres formes de jardins. Puisque les jardins, comme vous voyez, vous avez ici, quand on descend là le tapis vert, nous avons cette grande allée. On a d'abord des allées sablées qu'il faut entretenir. On a donc la recoupe en dessous, ensuite les différentes couches qui doivent être régulièrement renouvelées, comme on le voit dans les contrats jardiniers. On a ensuite ces grands tapis de gazon qui doivent être fauchés deux ou trois fois par an suivant les contrats. On a les treillages qui délimitent les bosquets. L'art du treillage fait partie du savoir-faire de ces jardiniers, ça fait partie de leur formation. Ils doivent, dans l'ordre de leur maîtrise d'ouvrage, faire un ouvrage en treillage, ça fait partie de leur art qui est essentiel. On a ensuite tout l'art des palissades d'arbres. On sait que ces palissades, nous avons maintenant majoritairement de la charmille, étaient composées de différentes essences. On trouvait même de l'être, de l'or, enfin plein de choses qu'on trouvait dedans. On a maintenant donc ces palissades qui sont géométriquement taillées. On a malheureusement pas assez de soleil pour voir le jeu des ombres, parce que c'est une dimension qui est fondamentale dans les jardins à la française, c'est ce jeu des ombres qui soit tant sur les allées que sur l'eau, et qui donne du coup à ce jardin en apparence rigide quelque chose de sans cesse mouvant grâce à ce jeu des ombres. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de voir tout doucement monter, et on voit bien que ces palissades, elles ont aussi une fonction, puisqu'elles multiplient avec la statuaire, la taupière, les arbres montés sur tige, le tout donne des formes changeantes qui ensuite, avec le jeu des ombres, donne un jardin qui change et qui du coup devient un jardin même de fantaisie, alors qu'en apparence, on pourrait croire qu'il ne l'est pas.
Alors, les jardiniers à l'époque de Louis XIV sont nombreux. Alors, en lisant votre livre, Henri Dupuis, jardinier du roi, d'ailleurs, Henri Dupuis, je dois avouer qu'avant, je ne le connaissais pas, hein. Je connaissais qu'André Lenôtre. Et donc, en lisant votre livre, on se rend compte déjà qu'ils sont assez nombreux. Et puis alors, on a l'idée du jardinier comme un travail subalterne, alors qu'en fait, c'est une haute fonction.
Oui, alors il y a plusieurs choses. Alors peut-être on va évacuer le nombre parce que c'est plus rapide. Le nombre de jardiniers à Versailles sous Louis XIV a évidemment varié. Au tout début, en 1663, dans les comptes de Colbert, on comptabilise 94 jardiniers et autres manœuvres qui travaillent au jardin, au fruitier et au potager sous la conduite de Monsieur le Nôtre. Donc on a ce chiffre de 94, un chiffre qui va bien évidemment évoluer au fur et à mesure du temps et des travaux, et surtout on peut s'accorder sur le chiffre en 87. Donc une fois les jardins établis, eh bien on comptabilise 12 jardiniers pour l'orangerie et le petit parc et le pourtour du canal, 30 pour le potager et 20 pour Trianon, qui est un jardin avec énormément de fleurs, etc., et donc qui en demande davantage. Mais ce chiffre ne comptabilise pas tous les saisonniers qui pouvaient être engagés, puisque en fait les jardiniers avaient en plus l'obligation dans leur contrat d'engager le nombre de personnes qu'il faut pour telle et telle tâche. Donc vous voyez, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes.
On a l'impression d'une fonction un peu subalterne, hein. Voilà, faut l'avouer.
Le jardinier, on le représente toujours avec sa bêche, son râteau. C'est beaucoup plus que ça. D'abord, on a différentes catégories de jardiniers. On va de celui effectivement qui aide et qui est là engagé pour des tâches ponctuelles, jusqu'à celui qui ordonne les jardins sous la conduite d'un jardinier paysagiste, comme vous diriez aujourd'hui, sous la conduite d'un André Lenôtre. Comment André Lenôtre travaillait ? Il travaillait avec des équipes. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que ces équipes étaient toutes liées plus ou moins par des liens du sang. Ils étaient tous plus ou moins parents. Ce sont ses neveux, ce sont ses cousins, etc. etc. Et quand on tombe sur une figure comme celle d'Henri Dupuis, à laquelle je me suis intéressée à la demande de Béatrix Saul, qui est conservateur général du château de Versailles et qui a créé il y a maintenant quelques années cette collection sur les métiers de Versailles, elle a souhaité qu'on s'intéresse à Versailles comme un lieu de travail. Après tout, Louis XIV parlait bien de son métier de roi. Donc du coup, revoir un peu des professions, la profession de jardinier, c'était ou le jardinier avec sa bêche et son râteau, comme on voit sur les nombreux tableaux de l'époque, ou la figure omniprésente d'un André Lenôtre, Deus ex machina, aux côtés de Louis XIV, et puis on ne comprenait pas très bien comment les choses se sont passées. Donc du coup, effectivement, le fait de s'intéresser à cette figure-là, pourquoi ? Parce que en fait, c'était un nom dans les comptes des bâtiments du roi, qu'on trouve très tôt, dès 1663, on trouve ce nom, et il a le bon goût de mourir quelques années après Lenôtre, André Lenôtre, et donc de couvrir toute cette période où on le voit finalement apparaître en tant que compagnon auprès d'un certain Marin Trumel et terminer gouverneur de l'orangerie, jardinier en chef chargé du petit parc du pourtour du canal et même de Trianon à un moment donné. Donc on a voulu comprendre comment a pu se passer une telle évolution, comment les choses ont-elles été possibles. Eh bien, ça a été une grande enquête dans les archives, dans les minutiers centraux, dans tous les documents des notaires, pour reconstituer tous ces clans et du coup faire dégager des figures qui nous sont parues de manière à la fois étonnante et beaucoup plus riche. On n'a pas été étonné de voir que finalement le nôtre avait une agence avec un certain nombre de personnes qui étaient là, les uns pour faire des relevés de terrain, les autres pour arpenter, mesurer, les troisièmes pour niveler, les quatrièmes pour planter, etc., etc. Et donc, il y avait forcément des chefs d'équipe. Et du coup, c'était à s'intéresser également, comment étaient-ils formés ? Où ? Alors, on sait que André Lenôtre est issu d'une famille de jardiniers, fils et petit-fils de jardiniers, qui a grandi aux Tuileries et qui a été bercé dans ce creuset des jardins et surtout au cœur de toutes les techniques, ces nouvelles technologies, on pourrait dire, qu'avait constitué ce laboratoire qui était la Grande Galerie du Louvre. Eh bien, qui était Henri Dupuis ? Eh bien, quand on cherche ses origines, eh bien, on n'est pas étonné de voir qu'il était lui aussi d'une famille de jardiniers, non loin des Tuileries. Il va épouser une jeune fille, une certaine Geneviève Trumel, et cette Geneviève Trumel, eh bien, elle est la fille de Marin Trumel, le propre cousin d'André Lenôtre. Le mariage a eu lieu dans la maison de Jean Lenôtre, et donc on a tous des clans qui se reconstituent, et surtout, du coup, des savoir-faire. Et on comprend comment les choses se sont passées. Un exemple, c'est Vaux-le-Vicomte et Versailles. Arrestation de Fouquet, un certain nombre d'arbres de Vaux vont venir à Versailles. Eh bien, qui va s'en occuper ? Eh bien, ce sont deux frères. Le jardinier de Vaux-le-Vicomte s'appelle, comme par hasard, Trumel. C'est le frère du jardinier qui est à Versailles. Et donc, on comprend mieux comment les échanges vont s'organiser. Les deux frères sont également associés. Ils ont monté une petite société avec avec Henri Dupuis et d'autres, pour fournir des arbres pour les maisons royales. Ben, c'est exactement le bon moment. Ce sont des véritables chefs d'entreprise, ce sont des entrepreneurs. Et donc, résultat des courses, on va avoir tout à coup une intelligence du quotidien des jardins qui se révèle par une meilleure connaissance de toutes ces dynasties.
Puis une notion d'entreprise, alors.
Bien sûr, une notion d'entreprise, des notions de dynastie qu'on soupçonnait, puisqu'on le retrouve dans tous les métiers de l'époque, hein, que ce soit aussi bien les musiciens, les architectes, etc. Ils sont tous liés, tous parents, et ils sont donc tous profondément enracinés dans cette connaissance intime des jardins. Ils ont des liens parce que tout simplement ils épousent des filles de maçons, des filles de fontainiers, etc. On a donc une espèce de connaissance intime du terrain qui donne un autre relief. Alors on a des noms de dynasties qui apparaissent. Alors les plus anciens, ce sont les maçons. Ensuite on aura les Collineaux. Les Collineaux, on les trouvait déjà à Paris au XVe siècle. Eh bien, on les trouve bien implantés à Versailles, avec une ramification nombreuse, dont deux qui vont épouser, s'allier aux Trumel et aux Dupuis. Ensuite, on a cette dynastie des Trumel également, dont on vient de parler. Et puis, c'est Dupuis qui, eux, sont jardiniers depuis Henri IV et qui vont être jardiniers du roi jusqu'à la Révolution. On arrive à suivre ces familles sur plusieurs générations. Et c'est intéressant, et on arrive surtout à suivre l'évolution de leur niveau de vie, de leur patrimoine, de leur manière de se comporter et de leur évolution sociale. Puisque un Henri Dupuis qui est fils de jardinier et qui, quand il s'est marié, a pour témoin de mariage des amis, à la génération suivante, on s'aperçoit que les témoins de mariage sont des officiers du roi. On est monté en grade. Les dots deviennent de beaucoup plus importantes. Les inventaires après décès montrent que, si au début de son mariage on vit encore modestement, Henri Dupuis, à la fin de sa vie, a adopté les goûts du roi. Lui et sa famille se sont fait représenter en grand portrait à l'huile. Il a un grand bureau boule. Il a dans son bureau un grand crucifix bordé de noir. On a de l'argenterie, on a du linge fin, on a quelques ouvrages. Ce n'est plus le jardinier avec la bêche et son râteau. Et c'est très intéressant parce qu'au fur et à mesure, d'abord, toutes ces dynasties de jardiniers, il faut bien le savoir, il n'y a pas qu'André le Nôtre à avoir été anobli. Les Dupuis seront anoblis, les Collineaux seront anoblis. Le service proche de Louis XIV est récompensé. Les jardiniers ont non seulement sont engagés par brevet ou par contrat, ont une rémunération principale, donc un vrai salaire, mais j'ai envie de dire l'accessoire suit le principal, c'est-à-dire que vous avez aussi des rémunérations exceptionnelles pour travaux exceptionnels. Il y aura quasiment pendant toute la carrière d'Henri Dupuis que des travaux exceptionnels jusqu'en 1685 à peu près, où le chantier s'arrête quand même un peu enfin. Mais il va y avoir quand même une période faste, presque 25 ans ou 25 années, où effectivement ce ne seront que des travaux exceptionnels avec des creusements de bassins, participer au creusement du Grand Canal. C'est tout à fait étonnant quand on voit. Donc on est obligé de remettre en cause cette profession de jardinier et de l'associer de manière beaucoup plus étroite aux autres savoir-faire. On ne s'étonnera pas de voir qu'il travaille en étroite collaboration avec son propre beau-frère qui est maçon. Tout ça, ça vit dans les mêmes maisons, etc. Donc, on devine sans peine quels étaient les sujets de conversation, les sujets de préoccupation et comment on arrive à avoir des étendues aussi importantes qui paraissent une telle évidence alors que le modelé du terrain ne l'est pas autant. Et quand on regarde dans les comptes des bâtiments du roi les tonnes de mètres cubes de terre qu'il a fallu déplacer pour pouvoir arriver à cela, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
On est à proximité du canal. Justement, c'est Henri Dupuis, hein, le fameux Henri Dupuis, à qui incombait donc la création de ce canal. Pourtant, c'est un jardinier, maître jardinier, qui va donc se retrouver la construction de ce canal.
Et donc, on est obligé de revoir un peu nos clichés sur la séparation des métiers. Et on voit très bien qu'à une époque, en fait, le jardinier est également une sorte d'ingénieur. Et là où on est tout à fait dans une période où les savoir-faire ne sont pas définitivement tranchés, on est famille dans une période où le nôtre accompagne le roi à la guerre. L'art de la fortification et l'art des jardins sont extrêmement similaires dans les projetés, les dénivelés, les relevés, etc., etc. On est dans des aménagements qui nécessitent des techniques extrêmement pointues. Ça fait quand même une centaine d'années que les instruments se sont perfectionnés. Alors si pour Versailles, l'abbé Picard et ces messieurs de l'Académie des sciences vont créer une lunette particulière, déjà avant, on sait fabriquer des constructions sur des très très grandes distances. Mais Versailles va servir de stimulation à son tour pour les sciences, pour créer d'autres choses et affiner les techniques.
Versailles, donc vous le disiez, bien sûr, ce sont les jardins avec des différents types de fleurs, de parterres utilisés.
Alors, ce sont à la fois donc des gros travaux, oui, et puis en même temps, ce sont des choses tout en finesse et en détail. Alors, les fleurs, on en voudrait partout, mais comme on l'a dit, le coût était important, donc on en trouve au pied du château. On en trouve en petite quantité dans certains bosquets, sous forme de pots qui étaient accrochés au treillage. Ces pots, il fallait les renouveler souvent pour une raison simple, c'est qu'une fleur en pot, ça sèche très vite, donc il faut les arroser beaucoup. Et puis, quand ça n'a pas de lumière, on se demande un petit peu comment ça peut tenir. Le lieu, j'ai envie de dire, de prédilection des fleurs à Versailles, c'était Trianon. Trianon avec un grand jardinier qui était le Bouteux. Et le Bouteux avait... c'est un nom qu'on retrouve souvent dans l'entourage de Lenôtre. Et c'était une période absolument extraordinaire où on a eu énormément de... une très, très, très grande richesse de fleurs. Trianon a permis, on le voit bien sur un certain nombre de tableaux, c'était le lieu privilégié des fleurs, surtout du temps de Madame de Montespan, qui a usé et abusé des parfums au point que le roi, à un moment donné, n'en voudra plus.
Il ne voudra plus de Madame de Montespan.
Ni de Montespan, ni de ses parfums qui lui rappelaient trop de choses, et surtout cette affaire des poisons. Mais c'est quand même intéressant de voir... alors qu'elle n'est plus là. Nous sommes en 1688, donc 5 ans après la mort de la reine. Madame de Maintenon est là depuis longtemps. Nous sommes l'année de la plantation du nouveau Trianon de marbre, qui est à peine achevé. Et nous avons, alors ça n'est plus le Bouteux, qui du temps du premier Trianon fleurissait les parterres, et Louis XIV inquiet et écrivait du front, le Bouteux a-t-il bien fait rentrer des fleurs en quantité suffisante, etc. Nous sommes passés à notre jardinier Olivier Fleurant, qui lui aussi est apparenté à Henri Dupuis, qui est surtout le gendre de l'ancien jardinier en chef de Fouquet-Avaux. Eh bien, si on regarde sa commande de fleurs, pour nous, ça ressemble un peu, j'ai envie de dire, à une lettre au Père Noël. Ça nous fait rêver, puisque pour cette seule année 1688, eh bien, on sait qu'il a commandé 33 000 narcisses. Alors, la majorité sont des narcisses d'Angleterre, mais également des simples tardives, des narcisses de Constantinople, des narcisses doubles, des narcisses blancs doux, bleu jaune, énormément de jacinthes, au nom absolument merveilleux. Alors, encore plus de jacinthes, puisqu'on est près des 45 000 jacinthes, que ce soit des brumales hâtives, des bleus turquins, des romaines, des doublés orangés, etc., etc. Et puis, pour les faire venir, eh bien, on les fait venir de Hollande. Ce sont même des femmes qui les fournissent, parce qu'il ne faut pas croire que le métier de jardinier soit réservé aux hommes. Des couronnes impériales, des iris en quantité assez impressionnante, des iris de Perse, des perce-neige, des cyclamens d'automne, des tulipes, des cardinales, des renoncules, qu'est-ce qu'on a encore ? On a des anémones,
pour le Trianon.
Oui. Des marguerites, des œillets d'Espagne, des juliennes, on est des lotus albus, des jonquilles, des giroflées, des campagnes. Finalement, on est dans un jardin, c'est absolument féerique. Alors, on commande énormément de pots, plus de 100 000 pots cette année, des pots de terre pour le jardin du roi à Trianon. Le jardin du roi à Trianon, c'est une partie, quand on regarde Trianon, le Trianon de main qui était sur la droite, 10 000 pots de terre qui permettaient de faire des changements à vue de fleurs, et puis des arbustes. Beaucoup d'arbustes, des arbres de Judée, des citronniers, des orangers, des seringas, des grenadiers, des lauriers, beaucoup de chèvrefeuilles, de la vigne vierge, du jasmin jonquille, des rosiers. Des rosiers. Alors, on voudrait avoir des précisions un peu sur ces différentes variétés de rosiers, puisqu'on est un peu frustrés parce qu'il y a près de 700 rosiers divers. Alors, ça ne nous enseigne pas très très bien, mais on sait qu'on a quelques rosiers muscats. On a aussi des rosiers jaunes, on a des lilas, évidemment. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? 1000 matrequaires également, des élégantes, voilà. On trouve aussi des pyracantas et puis surtout beaucoup de bottes de buis nains. Donc voilà un peu ce qui a composé le jardin de Trianon au moment de Trianon de marbre au moment de sa plantation. On est en 1688, donc quelque chose d'extrêmement fleuri, de très diversifié, et mais qui est un peu une exception au sein du grand jardin de Versailles. Ça n'était pas ce qui était partout ailleurs.
Est-ce que le métier de jardinier, maître jardinier, s'arrête avec la Révolution ?
Alors, j'ai envie de dire qu'il s'est arrêté bien avant. Le maître jardinier qui creuse des bassins, qui aménage de nouveaux bosquets, etc., il s'arrête bien plus tôt parce que ensuite, j'ai envie de dire, ce ne sera que de l'entretien. À partir de la fin du règne de Louis XIV, le maître jardinier et le jardinier du roi est avant tout quelqu'un qui a un contrat d'entretien, qui doit s'assurer que les allées sont ratillées, que les tapis verts sont fauchés deux fois par an, que les palissades sont elles aussi régulièrement tondues et que les arbres gardent une certaine hauteur pour assurer ces différences de niveau et puis ces jeux d'ombre tels que nous les connaissons. Alors, l'exemple des Dupuis est un très bon exemple pour montrer qu'au fur et à mesure qu'ils s'élèveront dans la hiérarchie sociale, ils sont au fur et à mesure des générations, ses fils, petits-fils et arrière-petits-fils, en s'élevant dans la hiérarchie sociale, d'abord vont suivre la cour. À la mort de Louis XIV et à la mort d'Henri Dupuis, son fils, Philibert Dupuis, va demander à échanger sa place à Versailles pour aller aux Tuileries. Et les Dupuis vont être aux Tuileries jusqu'à la Révolution. Et s'ils sont chargés de l'entretien des jardins des Tuileries, ils ont également d'autres fonctions à côté. Ils se font remarquer en tant que peintres, ils se font remarquer en tant qu'excellents musiciens, ils se font remarquer en tant que botanistes. Et le dernier des Dupuis, qui va traverser la Révolution et se retrouver professeur de botanique à la maison militaire de Saint-Cyr, va mourir d'une très jolie mort, je trouve, pour quelqu'un qui est jardinier de son état. Il va mourir en ramassant une fleur rare pour son herbier. Donc voilà, je trouve que c'était une assez jolie histoire. Mais pourquoi ils exercent moins leur métier, ils sont un peu moins jardiniers? Déjà aussi parce que les finances de l'État vont se dégrader de manière considérable et on retrouve des mémoires des Dupuis qui racontent les difficultés qu'ils ont à se faire payer avec 10, 20 ans, 30 ans de retard. Des requêtes qui vont être adressées par les descendants d'Henri Dupuis à Madame de Pompadour pour se faire payer de travaux réalisés 20 ans avant. Donc on est véritablement dans une période où, dans la mesure où les souverains ne payent plus, les officiers des bâtiments s'intéressent à d'autres chantiers et puis d'autres activités.
Pour terminer, parlons un peu des fontaines. Alors bien sûr, les jardins de Versailles, comment imaginer les jardins de Versailles sans les fontaines ? C'était deux choses bien différentes, fontainier et jardinier.
Ce sont deux métiers qui sont complètement différents. Ce sont des dynasties de personnes qui sont différentes. Et en même temps, les bassins et les fontaines sont des éléments qui sont essentiels et qui sont fondamentaux dans les jardins de Versailles, au même titre que la statuaire. Alors, il y a une chose, c'est que les fontaines ont quelque chose d'absolument magique. On a quelque chose, un jeu déjà entre les miroirs d'eau et les fontaines jaillissantes qui est assez extraordinaire. On a surtout en plus un art qui est bien spécifique. C'est surtout le résultat d'un travail considérable qui a été celui de l'acheminement des eaux à Versailles. Le grand problème de Versailles, c'est qu'il n'y a pas de source. Un jardin comme Courance, où vous avez 8 sources, vous pouvez faire quelque chose d'extraordinaire. À Versailles, on a ce rue de Galie et donc le canal qui sert à drainer tout cela, mais il n'y a pas que ça. Le problème, c'est qu'il faut alimenter toutes ces fontaines. Donc il faudra que vous voyez ça avec le fontainier qui vous racontera ça infiniment mieux que moi. Mais c'est une prouesse technique que d'avoir pu rassembler autant de fontaines, mais qu'on ne pouvait pas faire jouer en même temps faute d'eau suffisante. Donc en fait, le roi, lors de sa promenade, les fontainiers étaient là et mettaient en route les fontaines les unes après les autres pour permettre, par un principe de gravité, de permettre à chacune d'avoir suffisamment suffisamment d'eau pour pouvoir donner toute leur ampleur. Alors là, nous avons des petites voitures à roulettes. Ça rappelle le bruit du chariot à roulettes de Louis XIV à la fin de sa vie, on va dire ça. Puisqu'il avait une petite chaise dont il était très content et qu'on le voit représenté sur les tableaux avec cette petite chaise, vous voyez. Donc on n'est pas très loin du jardin de Louis XIV. Et on a maintenant un rayon de soleil qui se lève et qui nous permet de voir sur les bassins. Et on commence à voir des jeux d'ombre. Il faudrait s'avancer davantage pour voir comment, en fait, ces palissades impeccablement taillées se reflètent dans l'eau et permettent de donner encore au tracé des mouvements changeants.
Poursuivez la visite des jardins de Versailles en compagnie de Patricia Bouchenaud-Deschin. Deux autres émissions vous attendent sur le site de Canal Académie. Elles sont en libre écoute et libre téléchargement. Ces émissions sont consacrées à la définition que l'on donne aujourd'hui du jardin à la française et aux usages des jardins de Versailles à l'époque du Roi Soleil. Merci de votre écoute et à bientôt sur canalacademie.com.